Vous écoutez Europe 1, il est 18h.
Les cours d'eau vont monter très vite, vont déborder et ça va inonder les maisons. C'est en tout cas ce qu'on craint.
Beaucoup de pluie attendue et déjà des vagues géantes. Le littoral des Pyrénées-Orientales pris dans la tempête Gloria, tempête déjà meurtrière en Espagne.
Et puis bien sûr, de plus gros arrivent cette nuit. Nous sommes sur place dans quelques secondes.
Un passe d'armes sur le climat au milieu des patrons à Davos face à Greta Thunberg. Donald Trump fustige les prophètes de malheur.
Les actions coup de poing de la CGT Énergie, nouvelle coupure de courant. Le Premier ministre Édouard Philippe demande des sanctions.
Tout cela, c'est méconnaître la démocratie. Tout cela, c'est méconnaître la loi. Et tout cela doit être sanctionné.
Dans ce journal également, comment réduire le plastique dans notre quotidien. Dernière étape pour la loi anti-gaspi à l'Assemblée.
Faut-il s'inquiéter du virus chinois? Réunion à l'OMS demain et Didier François dans ce grand journal du soir.
Et puis les doutes de Joe Wilfried Tsonga sur son avenir. Il abandonne l'Open d'Australie.
On est toujours un peu inquiet dans ces cas-là, évidemment. Le problème, c'est que mon corps, aujourd'hui, il a subi des blessures presque irréversibles.
La Bourse de Paris en repli ce soir de 0,54% à 6045 points.
Et la tendance météo, Anissa?
Alors la tempête Gloria, Nathalie, elle est toujours très active dans le sud. Hein. On en parle plus en détail dans ce journal. Partout ailleurs, sur toute la moitié nord de la France, c'est du grand et beau soleil demain avec des températures toujours hivernales.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Nathalie Lévy, Sébastien Krebs.
La Méditerranée en furie qui grignote le littoral. Les images sont particulièrement impressionnante, des vagues de plusieurs mètres et l'écume qui recouvre parfois les plages. C'est la tempête Gloria qui a déjà fait 3 morts en Espagne. Elle frappe depuis hier soir les Pyrénées-Orientales avec beaucoup de vent, encore de fortes pluies attendues dans les heures qui viennent. Benjamin Péter, vous êtes à Argelès-sur-Mer. Ce qu'on craint, ce sont surtout des inondations.
Oui, parce que si pour le moment c'est l'accalmie, les pluies doivent s'intensifier en milieu de nuit. Et le risque va venir de la mer. Elle est très impressionnante en ce moment avec des vagues qui viennent lécher les maisons à bord de plage, secouées par un vent qui vient de l'est. Et cette conjonction de cumul important et de mer agitée, c'est ce que redoute le maire Antoine Parra.
Ce qu'on craint, c'est surtout ce qui va arriver. Ne pouvant se déverser dans la mer qui sera forte, les cours d'eau vont monter très vite, vont déborder et ça va inonder les maisons, c'est en tout cas ce qu'on craint. On espère que ça se passera différemment, mais les paramètres qu'on a aujourd'hui nous font craindre des inondations importantes.
Dans le village d'Argelès, c'est le cours d'eau La Marsanne qu'on surveille. Elle a déjà bien gonflé, des aquabarrières faites de bâches et de blocs en béton ont été installés pour limiter les débordements. Et pour les habitants, on se prépare à une nuit difficile, comme Francine, 82 ans, qui a fait installer des plaques en fer pour empêcher l'eau de rentrer dans sa maison.
J'ai tout remonté, si vous voyez le garage, tout est sur les hauteurs. J'ai monté la voiture chez ma sœur et puis on a mis le sèche-linge là-dessus. Et j'ai tout mis en sécurité, je ferme bien la porte, je mets des serpillères, j'ouvre la porte d'ici et elle va dans le jardin.
Voilà, alors ici le plan de sauvegarde communal doit être déclenché. Une cellule de veille va également être installée à la mairie. La commune qui a déjà reçu le renfort de 70 pompiers supplémentaires venus de toute la région.
Benjamin Péter à Argelès-sur-Mer pour Europe 1. Les Pyrénées-Orientales placées en vigilance. Pluie, inondation jusqu'à jeudi matin.
Eh oui, alors Anissa, je me tourne vers vous. Le plus gros, c'est pour cette nuit?
Oui, effectivement, c'est cette nuit qu'on attend les pluies les plus soutenues avec en moyenne 10 mm de cumul de pluie par heure. Alors il faut savoir aussi qu'il a beaucoup neigé ces dernières heures. Ce qui va se passer, c'est que le département va passer en vigilance orange avalanche, puisque cette neige risque de fondre. Et cette fonte des neiges va aussi alimenter les cours d'eau. Voilà pourquoi on attend des inondations, des avalanches avec le redout des températures. Et puis on attend aussi sur le littoral des vagues submersion. Attention, là aussi, vigilance orange au bord de la mer.
Et la météo complète, bien sûr, à la fin du journal. Côté espagnol, les dégâts sont considérables. 2600 km de route impraticables à cause de la neige et des éboulements. Plus de 200 000 foyers privés de courant en Catalogne.
Les dérèglements, les questions climatiques qui justement ont secoué aujourd'hui le forum de Davos dans la très chic station suisse. Sébastien.
Et la passe d'armes annoncée a bien eu lieu avec d'un côté Greta Thunberg, la jeune militante suédoise qui a rappelé à l'ordre les grands patrons. Rien n'a été fait, dit-elle. Et de l'autre, la réponse sans détour de Donald Trump.
Le temps n'est pas au pessimisme, car l'heure est un incroyable espoir, à la joie, à l'optimisme et à l'action. La peur et le doute ne sont pas de bonnes façons de penser. Et pour se saisir des perspectives d'avenir, nous devons rejeter les éternels prophètes de malheur et leurs prédictions d'apocalypse. Ce sont des discours d'un autre âge, celui des anciens diseurs de bonne aventure. Vous voyez de qui je parle, et nous voyons très bien de qui je parle. Ils décrivent un tableau bien noir, mais nous ne laisserons pas ça arriver.
Bonsoir Nicolas Barré.
Bonsoir.
Directeur du quotidien Les Échos, on vous retrouve en ligne de Davos. Donald Trump face à Greta Thunberg. C'est vraiment le duel du jour qui s'est invité au milieu des grands patrons ?
Oui, tout à fait. Alors c'est un peu le choc des générations également. Donald Trump, lui, il est clairement en campagne électorale pour sa réélection. Et donc, ça ne mange pas de pain, si je puis dire, de taper un petit peu sur ceux qui le qualifient des extrémistes de l'environnement qui se battent pour sauver la planète. Lui, c'est évidemment pas son fort. Il a été accueilli, je dirais, avec un peu de tiédeur par tous ces patrons qui étaient là et les dirigeants politiques. Parce qu'en face, évidemment, cette question du climat, elle est partout. Elle n'est pas seulement dans la bouche de Greta Thunberg. Elle a une conception peut-être un peu radicale des choses. Elle porte sur son visage un petit peu tout le malheur du monde. Elle est parfois dans l'excès quand elle dit que les médias ne relayent pas assez ses propos alors qu'il y a des caméras du monde entier devant elle. Mais en tout cas, c'est quand même une vraie question et sur laquelle Donald Trump n'apporte évidemment pas de réponse. On se souvient tous du retrait de l'accord de Paris.
Qu'est-ce qu'on retient de son discours aujourd'hui ?
Donald Trump, il était surtout là pour vanter les résultats économiques des États-Unis et pour montrer que face à la Chine, quand on est dur, on peut gagner. Et ça, c'est un message qui s'adressait vraiment aux Américains. Il est venu en Suisse pour parler à ses électeurs.
Nicolas Barret en ligne de Davos pour Europe 1. Merci beaucoup. On vous retrouve demain, inévitablement, dans la matinale de Mathieu Béliard, dans le journal de 7h, comme chaque jour.
Donald Trump, très loin donc de son procès en destitution qui s'ouvre dans une heure devant le Sénat américain. Procédure qu'il a qualifiée aujourd'hui de farce et de chasse aux sorcières. Nous serons à Washington avec Xavier Yvon dans le journal de 19h.
Il est 18h06 sur Europe 1, la suite du journal. Sébastien Krebs, Nathalie Lévy.
Doit-on s'inquiéter de ce mystérieux virus apparu en Chine ? Il a fait 2 nouvelles victimes, cela donne 6 morts à l'heure actuelle.
Et il préoccupe bien au-delà de l'Asie. L'Organisation mondiale de la santé se réunit demain. Bonsoir Pauline Jacquot.
Bonsoir.
On sait maintenant que ce coronavirus qui provoque de violentes pneumonies peut se transmettre entre humains. C'est ça qui fait craindre une crise d'ampleur.
Oui, ça risque d'accélérer la vitesse de propagation. Comment ce virus va évoluer ? C'est une question centrale. Dans quelques jours, c'est le nouvel an chinois. 450 millions de personnes s'apprêtent à voyager. Alors il va falloir trancher. Ce virus est-il une urgence de santé publique internationale, comme l'a été la fièvre Ebola ou encore le virus Zika ? L'OMS va notamment décider s'il faudra restreindre les voyages vers la Chine, selon le professeur Gilles Pialoux, chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Tenon.
Est-ce que c'est quelque chose qui est circonscrit ? Est-ce que c'est quelque chose qui nécessite qu'on limite les transports et les voyages ? Pour l'instant, l'OMS a dit non. Et puis de savoir aussi s'il y a une enquête un peu plus poussée venant justement des autorités de l'OMS sur place, puisqu'on sait très bien que maintenant, il y a des cas qui ont été décrits à d'autres régions de la Chine.
Enquête, notamment pour avoir les vrais chiffres du nombre de personnes contaminées. Il y a un doute, effectivement. À Pékin, la population se méfie parce qu'il y a 15 ans, lors de l'épidémie de SRAS, l'État avait voulu minimiser la vérité. Il avait fallu attendre 3 mois pour que les autorités reconnaissent une crise majeure. Bilan final, plus de 700 morts.
Alors Pauline, le problème, c'est que l'inquiétude, ça y est, elle a dépassé les frontières de la Chine à l'étranger. On tremble presque.
Exactement. Aux États-Unis, à Singapour, en Thaïlande, tous les passagers en provenance de Wuhan en Chine sont scrutés par les autorités sanitaires. Pas encore de telles mesures en France. Cela pourrait changer, évidemment, suivant la décision de l'OMS demain. Mais les médecins sont priés de réorienter vers le SAMU les patients présentant une infection respiratoire aiguë et ayant récemment séjourné dans la ville de Wuhan.
Les précisions de Pauline Jacquot, merci.
Merci Pauline. On se retrouve avec Didier François sur ce sujet à 19h20 dans Demain dans le Monde.
La suite de votre grand journal du soir avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy.
Le gouvernement qui appelle à sanctionner les militants de la CGT qui coupent l'électricité. Nouvelle action ce matin. C'est à suivre dans votre édition de 18h.
Et puis les doutes de Joe Wilfried Tsonga sur son avenir. Il sort de l'Open d'Australie sur abandon.
Votre grand journal du soir, 2 heures d'infos jusqu'à 20h sur Europe 1. 18h10 sur Europe 1, la suite de votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy, Sébastien Krebs.
Ils veulent maintenir la pression coûte que coûte et donc avec des actions quotidiennes. Les militants de la CGT ont revendiqué une grosse coupure de courant ce matin.
Orly, Rungis, Thau, aux aurores, plusieurs communes ont été touchées. Enedis va porter plainte et le Premier ministre à l'Assemblée tout à l'heure a demandé des sanctions.
Vouloir bloquer un certain nombre de sites, ne pas respecter la loi en s'introduisant dans telle ou telle enceinte privée, procéder à des coupures sauvages de courant. Tout cela, c'est méconnaître la démocratie, tout cela, c'est méconnaître la loi, et tout cela doit être sanctionné. Car ça n'est pas acceptable. L'outil de production, il se respecte. Le service public, il se respecte. Nos concitoyens, ils se respectent. Lorsqu'on procède à des coupures sauvages d'électricité, on met nécessairement nos concitoyens, les usagers du service public dans une situation qui est parfois périlleuse. Et ça n'est pas acceptable.
Édouard Philippe, propos recueillis par Jean-Rémy Baudeau.
Bienvenue Maud Descamps.
Bonsoir.
Alors la CGT Énergie, elle assume, et c'est pas la première fois d'ailleurs qu'elle mène ce type d'action.
En effet, depuis décembre, il y a eu plusieurs coupures sauvages, notamment en Gironde, ce qui avait plongé dans le noir près de 50 000 foyers. Même chose à Lyon, à Nantes, à Toulouse, à Orléans. Ce matin, vous le disiez, c'était à Rungis. Le distributeur d'électricité Néédis nous a dit donc qu'il allait porter plainte, comme pour toutes les coupures précédentes. Ces coupures, elles pourraient être considérées comme portant atteinte à la sécurité des usagers. Et donc la justice pourrait estimer bien qu'elles ont mis en danger la vie d'autrui. Si c'est le cas, les auteurs de ces coupures sauvages s'exposent à 1 an de prison et 15 000 euros d'amende. Et par ailleurs, sachez que le syndicat, donc ici la CGT Énergie, pourrait également être poursuivi et condamné. Ça avait déjà été le cas en 2006. La CGT avait dû dédommager EDF.
Maud Descamps du service économie d'Europe 1. C'est la suite de l'attentat de la préfecture de police de Paris. On apprend ce soir que 16 personnes ont été écartées des services de renseignement pour raison de radicalisation. Et cela sur les 5 dernières années, fait savoir Matignon. Et puis autre information, la demande d'asile continue d'augmenter en France, plus 7% en 2019.
Moins jeter et mieux recycler. Dernière ligne droite pour la loi anti-gaspi qui doit être adoptée par l'Assemblée ce soir même.
Loi dite pour une économie circulaire et qui change beaucoup de choses dans notre quotidien. Bonsoir Virginie Salmen.
Bonsoir.
Avec notamment donc la confirmation de l'interdiction d'un certain nombre de produits en plastique jetable.
Oui, alors c'est pas facile de s'y retrouver. Depuis le 1er janvier dernier, les cotons-tiges en plastique sont déjà interdits à la vente. Mmh. Alors vous pouvez encore en trouver dans les rayons pendant 6 mois, c'est le temps que les stocks s'écoulent. Ça va aussi pour les assiettes de pique-nique en plastique, les gobelets et les verres vendus en lot. Attention, en revanche, les gobelets en plastique de la machine à café avec un liquide dedans sont encore autorisés pour l'instant.
C'est subtil.
Ensuite, dès l'an prochain, 2021, ce sera au tour des pailles en plastique, des boîtes en polystyrène orange, vous voyez un peu type kebab, les touillettes pour votre café, les tiges pour les ballons de baudruche pour les enfants, tout ça interdit à la vente. Et puis, il y aura de nouvelles interdictions encore en 2022, par exemple, les sachets de thé, vous savez, il y en a qui sont les sachets eux-mêmes en plastique, en matière plastique. Et puis autre chose, les emballages plastiques pour les fruits et légumes, les sachets de moins d'1,5 kg. Et encore une autre chose, si vous êtes dirigeant d'une entreprise, vous ne pourrez plus distribuer à vos clients ou à vos salariés des bouteilles d'eau ou de soda en plastique gratuites. Et puis la révolution dans les fast-foods, c'est pour 2023. On vous servira un cheeseburger dans une vraie assiette et le coca dans un vrai verre.
En verre, en porcelaine.
Oui, absolument.
Bon, ouais, alors, on n'y est pas encore. Néanmoins, on a beaucoup entendu parler, Virginie, de l'idée de ressusciter la consigne pour les bouteilles en plastique. Là-dessus, le gouvernement, pour autant, il a reculé.
Oui, c'est Emmanuel Macron qui a assuré les maires que rien ne serait fait sans leur accord. Résultat, on ne parle pas pour l'instant de ce système où on rapporte ces bouteilles en plastique dans un grand conteneur sur le parking du supermarché, par exemple. Et donc, on récupère au passage quelques centimes. La décision a été repoussée à 2023, donc on en reparle à ce moment-là.
Virginie Salmen, merci, spécialiste environnement d'Europe 1. Et puis au Sénat, c'est la loi bioéthique qui entame son deuxième round de débat avec notamment l'ouverture de la procréation médicalement assistée à toutes les femmes.
Le tennis maintenant, ça n'a pas été une très belle journée pour les Français du côté de l'Open d'Australie.
Alors on va quand même saluer les qualifications de Gaël Monfils, Benoît Paire ou encore Caroline Garcia et Alizé Cornet. Mais élimination pour Mladenovic, Humbert, Manarino, Moutet, Chardy. Et on retient ce soir surtout les doutes de Joe Wilfried Tsonga, 33e mondial, contraint à l'abandon pour cause de problèmes de dos à répétition.
On est toujours un peu inquiet dans ces cas-là, évidemment. On a envie finalement d'aller voir le docteur et que le docteur il nous dise « bon bah c'est pas grand-chose, tu te reposes une semaine et tu repars » ou « tu te reposes 2 semaines et tu repars ». Maintenant, arrivé à mon âge, le problème c'est que mon corps, aujourd'hui, il a subi des blessures presque irréversibles. Que je dois aussi gérer et c'est vrai que je suis un peu désabusé parce que c'est une lutte qui est quotidienne.
Il s'interroge, Joe Wilfried Tsonga à 34 ans, il était au micro de Georges Homsi.
Et puis on a un autre qui se porte mieux, c'est Alexandre Zverev.
Oui, alors lui il a promis de donner toute sa prime à la lutte contre les incendies en Australie s'il remporte le tournoi, c'est 3,5 millions d'euros.
C'est bien, incroyable et généreuse annonce il en faut. Et puis on a une pensée ce soir, Sébastien, pour la famille et les proches de Sébastien Demorand, le critique gastronomique qui est décédé à l'âge de 50 ans.
Vous le connaissiez peut-être comme juré de l'émission Masterchef, mais c'est ici à la rédaction d'Europe 1 qu'il avait débuté sa carrière comme reporter, présentateur ensuite, avant de rejoindre le Goemio, le fooding aussi, pour assouvir sa passion pour ce qu'il appelait la bistronomie, terme dont on dit qu'il l'a inventé.